de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés, entre autres. OTAN souligne l'importance des partenaires Indo-Pacifiques pour la sécurité mondiale. En tant que président de l'ASEAN, l'Indonésie invitera des représentants non politiques de la Birmanie. Président confirme son intention d'arrêter les exportations d'étain brut. Ministre indonésien de la Défense rappelle aux étudiants indonésiens en Turquie de rester optimistes et fiers. Indonésie soutient la stratégie de création d'emplois décents en Palestine. Kadin de Java Oriental présente le café de Malang à l'ambassadeur de l'Union européenne. Et BPK cède officiellement la présidence de SAI 20 à l'Inde. Bon chargé d'État, voici les nouvelles en complet. Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, Jens Stoltenberg a souligné mercredi l'importance de la coopération de l'OTAN avec les partenaires de la région Indo-Pacifique. Selon lui, l'Europe ne peut ignorer la situation en Asie de l'Est car la sécurité mondiale est interconnectée. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de l'OTAN pour renforcer les liens avec Tokyo à la lumière de la situation sécuritaire de plus en plus tendue provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la coopération militaire russo-chinoise croissante. Alors que Stoltenberg insiste sur le fait que la Chine n'est pas l'ennemi, il dit que Pékin est devenu une puissance de plus en plus autoritaire. L'Indonésie a confirmé qu'elle inviterait des représentants non politiques de la Birmanie au sommet de l'ASEAN en mai 2023. L'Indonésie invitera également la Birmanie à la réunion ministérielle des affaires étrangères de l'ASEAN qui se tiendra les 3 et 4 février pour les sommets et réunions des ministres des affaires étrangères de l'ASEAN. Les représentants de la Birmanie invités étaient au niveau apolitique. Il y a donc une invitation en face-à-face, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Tun Marsudi, au bureau de l'Institut de la Défense nationale, Lemhanas, mercredi 1er février. Ratno a déclaré que cette invitation constituait une amélioration par rapport au sommet de l'ASEAN de 2021. À cette époque, la Birmanie n'envoyait aucun représentant, y compris des représentants non politiques, en Indonésie en tant qu'hôte. Ratno a déclaré que c'était le droit de la Birmanie de déterminer qui représenterait le pays à la réunion plus tard. Le président Joko Widodo a réitéré le plan politique visant à arrêter les exportations d'étain brut. Ceci a été fait dans le cadre de l'aval industriel qui est en cours d'amélioration. Dans ses remarques au Mandiri Investment Forum 2023 qui s'est tenu à Jakarta le mercredi 1er février, le président a déclaré que les réserves d'étain brut de l'Indonésie sont les deuxièmes plus importantes au monde. L'Indonésie est également le premier exportateur d'étain brut du monde, tandis que la Chine est le plus gros importateur. Si nous fabriquons des composants PCB, circuits imprimés, la valeur ajoutée peut être multipliée par 69. Pourquoi ne le fabriquons-nous pas? Pourquoi l'exportons-nous? Et ce que les autres pays obtiennent. Attention, nous devons être cohérents à ce sujet. Même si nous serons à nouveau poursuivis plus tard, ce n'est pas grave, ne reculez pas. Auparavant, le gouvernement avait arrêté les exportations de nickel, mais s'est heurté à la résistance de l'Union européenne et l'Indonésie a perdu un procès devant l'Organisation mondiale du commerce de l'OMC. Le gouvernement va également couper le robinet d'exportation du minerai de bauxite à partir de juin prochain. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a rappelé aux étudiants indonésiens qui étudient en Turquie de toujours rester optimistes et fiers, car l'Indonésie est un pays grand et riche. Cela a été transmis par le ministre alors qu'il a eu l'occasion de rencontrer des étudiants indonésiens en Turquie à l'ambassade au Wisma de l'ambassade de la République d'Indonésie à Ankara, mercredi. Comme l'a déclaré Antara, a déclaré le ministre Prabowo, une étude de Bloomberg a révélé qu'au cours des 5 à 8 prochaines années, l'Indonésie, qui est actuellement membre de l'Organisation des pays du G20, pourrait apporter une plus grande contribution au niveau mondial pour devenir membre de l'EG8 ou l'EG7. Par conséquent, le ministre de la Défense a insisté pour que les étudiants indonésiens en Turquie travaillent toujours dur, avec une attitude optimiste et heureuse pour construire la nation. La ministre indonésienne de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, a reçu une visite de courtoisie de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Palestine en Indonésie, Zuhair Al-Sun, au bureau du ministère de la main-d'œuvre à Jakarta mercredi 1er février. La ministre Ida espère que la réunion fournira des informations plus claires sur le rôle de l'Indonésie dans la réunion des partenaires pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale palestinienne pour l'emploi, qui aura lieu le 23 février à Amman, en Jordanie. Selon elle, le forum vise à soutenir la création d'emplois décents en Palestine et à fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale palestinienne pour l'emploi 2021-2025. La ministre Ida Fauzia a révélé qu'il y a trois clés de la stratégie nationale palestinienne pour l'emploi qui ont été développées par les ministères palestiniens avec l'appui technique de l'Organisation internationale du travail. Cette stratégie comprend le renforcement de la gouvernance des programmes actifs du marché du travail, l'alignement de l'éducation sur les besoins du marché du travail, y compris l'enseignement supérieur, ainsi que l'amélioration de la résilience du secteur privé pour créer des opportunités de travail décent, en particulier pour les jeunes et les femmes. En ce qui concerne cette stratégie, le gouvernement indonésien souhaite coopérer sous la forme de placements de main-d'œuvre, de programmes d'apprentissage, d'assistance technique dans la mise en œuvre de la formation professionnelle et du renforcement des capacités des ressources humaines. Chambre de commerce et d'industrie de Java Oriental Kadine présente le café de Malang Java Oriental à l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie et au Brunei Darussalam, Vincent Piquet, à Malang mercredi. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie pour l'agriculture et l'alimentation de Java Oriental, Eddie Purwanto, a déclaré que la décision d'introduire le café de Malang était due au potentiel considérable, sachant que la consommation de café en Europe est assez élevée. Il a ajouté que son parti apprécie la présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Malang pour renforcer les relations et renforcer la coopération commerciale, en particulier pour les produits de Malang qui sont exportés vers l'Union européenne. Les exportations de café de Java Oriental en 2022 vers l'Union européenne ont atteint 73,9 millions de dollars américains avec un volume de 19,2 tonnes. De son côté, l'ambassadeur Vincent Piquet a déclaré qu'il était très intéressé par le café Robusta de Wonosari Malang, qui est célèbre pour son goût distinctif. L'Agence suprême de contrôle, BPK, a officiellement remis virtuellement la présidence de l'Institution supérieure de contrôle 20, SAI 20, au bureau du contrôleur et vérificateur général, CAG, de l'Inde. L'activité a été dirigée par le secrétaire général BPK de la République d'Indonésie, Bahtiar Arif, et l'adjoint CAG de l'Inde, Parfen Mehta. Dans une déclaration officielle à Jakarta, mercredi 1er février 2023, Bahtiar a exprimé sa gratitude pour l'engagement de CAG India à poursuivre la présidence de l'ISC 20 et à maintenir l'engagement de promouvoir une bonne gouvernance responsable dans l'esprit du G20 India. One Earth, une famille et un avenir. Outre les délégations des deux institutions, l'ambassadeur d'Indonésie en Inde et des représentants du ministère des Affaires étrangères étaient également présents. Bahtiar a également exprimé le soutien de BPK de la République d'Indonésie au succès de la présidence indienne de la CG et de son programme en 2023. Yudi a expliqué que les activités de l'ISC 20 de l'année dernière se présentaient sous la forme d'un processus de communication avec d'autres ISC et parties prenantes. Comment l'équipe et les tâches étaient reparties, ainsi que les supports de communication officiels utilisés. À cette occasion, l'agence CAG Inde a exprimé sa gratitude pour le succès de BPK de la République d'Indonésie dans la formation et la direction de SAI 20 en 2022. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, no. Ces auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique et pour le titre, augmenter le nombre de touristes après la pandémie, l'ambassade d'Indonésie à Bern organise un salon de tourisme en Suisse. Pour augmenter les arrivées des touristes étrangers en Indonésie après la pandémie de COVID-19, l'ambassade d'Indonésie à Bern a organisé une exposition touristique After Work Indonesia jeudi 26 janvier à la brasserie des Halles de Lille, Genève. Le salon de voyage a été créé en collaboration avec l'agence de voyage spécialiste de l'Asie du Sud-Est à Genève, Adjunct Créateur de Voyage. À cette occasion, l'ambassade d'Indonésie à Bern fait campagne pour 10 nouvelles destinations touristiques avec le slogan 10 New Bali ainsi que le 9e Bali and Beyond Travel Fair ou BBTF qui se tiendra à Bali du 20 au 23 juin 2023. Ce salon de tourisme a réuni Bali Maspa appartenant à la diaspora indonésienne en Suisse, la compagnie aérienne Emirates, le croisiériste Aqua Expedition for Luxury Cruise et une ONG française Calawet. Environ 150 visiteurs ont rempli le hall de la brasserie des Halles de Lille, décorée dans un style typiquement indonésien à partir de batik, wayang et parapluie balinais. L'ambassade d'Indonésie a ouvert un stand d'information sur diverses destinations touristiques bien connues en Indonésie. En outre, les visiteurs de l'exposition ont également apprécié les délices culinaires indonésiens préparés par l'ambassade d'Indonésie à Bern sous la forme de martabak aux œufs, de gâteau pandan et de nem. Pour animer cette activité, Chini Ut Paut de la diaspora indonésienne en Suisse était présente en dansant la danse Wira Pertiwi. La danse javanaise animée a été suivie de la représentation de la danse Joget Bumbung qui est interprétée de manière interactive par Amandine Mareshi, une danseuse balinaise de Suisse qui a longtemps été sous la direction de l'ambassade d'Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie en Suisse, Mulyaman Haddad, est le représentant permanent de la République d'Indonésie auprès du PTRI à Genève. L'ambassadeur Febrian Arudiat ont également assisté à l'exposition. Selon l'ambassadeur Mulyaman Haddad, la Suisse est l'un des partenaires importants de l'Indonésie en matière de commerce, d'investissement et de tourisme. Les touristes suisses ont tendance à aimer les circuits liés à la nature, à l'aventure et aux sites historiques, culturels ainsi que les circuits liés aux activités sous-marines, par exemple surf et plongée, étant donné que la Suisse est un pays qui n'est pas directement adjacent à la mer. L'exposition touristique After Work est une exposition touristique qui se tient une fois par an en présentant diverses destinations en Asie du Sud-Est. Cette exposition a reçu un écho très positif non seulement de la part des locaux qui y ont participé, mais aussi de la diaspora indonésienne en Suisse qui a contribué au succès de l'événement. C'est Zuritar, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 février 2020, la signature de l'accord de Tartu. Le traité de Tartu était un traité de paix entre l'Estonie et la Russie, signé le 2 février 1920, qui a mis fin à la guerre d'indépendance estonienne. L'Estonie était une province de l'Empire russe depuis 1710. Le traité comprenait une déclaration selon laquelle la Russie reconnaît de jour sans condition l'indépendance de la République d'Estonie et renonce pour toujours à tous les droits sur le territoire de l'Estonie. Passons maintenant à l'événement du 2 février 1950, l'Université d'Indonésie a été créée. Peu de temps après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie, le 17 août 1945, l'armée coloniale néerlandaise a repris le contrôle de Jakarta à la fin de 1945. Le gouvernement civil néerlandais des Antilles orientales a ensuite créé une autre université ou une université temporaire à Jakarta. Le nom Nut Universiteit a ensuite été changé en Universiteit van Indonesië. En 1955, le nom Universiteit Indonesia est échangé en université d'Indonésie. Le 2 février 1950 a été commémoré comme l'anniversaire de l'université d'Indonésie. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 février, la Journée mondiale des zones humides. La Journée mondiale des zones humides est commémorée le 2 février de chaque année. Cette date fait référence au jour où la Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, était signée le 2 février 1971 en ville de Ramsar, en Iran. La Journée mondiale des zones humides a été célébrée pour la première fois en 1997. Cette journée est célébrée par des actions visant à sensibiliser le public à la valeur et aux avantages des zones humides pour les écosystèmes. C'est du retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu tak menentu perhatianmu yang buatku. Oh, ingin ku memilikimu meski kau telah dimilikinya. Bolehkah ku dekat denganmu? Izinkan ku.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie. Et pour le titre, le ministère de l'Environnement et des Forêts encourage la collaboration pour la protection de l'écosystème du carbone bleu. Le ministère indonésien de l'environnement et des forêts a encouragé la collaboration pour préserver l'écosystème du carbone bleu en tant qu'effort important dans l'action d'atténuation du changement climatique dans le pays. C'est ce qu'a déclaré la ministre Siti Nurbaya Bakar lors du lancement du résultat de l'étude de l'Indonésie Ocean Justice Initiative, IOJI, sur l'écosystème du carbone bleu à Jakarta lundi 30 janvier. Siti Nurbaya a déclaré que l'écosystème du carbone bleu peut être une direction pour la gestion indonésie liée au carbone écosystémique qui comprend la réglementation, l'institution, le processus, le système et la procédure, la participation des personnes, le système de financement, la base des données, l'exercice politique et l'élaboration des politiques, ainsi que l'interaction entre le gouvernement central et le peuple, le secteur privé et le gouvernement régional. Le ministre indonésien de l'environnement et des forêts a déclaré que l'étude de l'écosystème du carbone bleu qui a été réalisée en intégrant les écosystèmes marins joue un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a expliqué que les écosystèmes marins qui comprennent la mangrove, les herbiers marins, les marais saumâtres, les marais salés et les coralliens ont un grand potentiel en tant qu'absorbeurs et stockage de carbone. Selon elle, la mise en œuvre de l'écosystème du carbone bleu offre une opportunité de développement importante ainsi que des défis pour divers secteurs tels que la pêche et l'aquaculture durable, le tourisme marin et côtier et le développement côtier. Siti Nurbaya a déclaré que la réglementation, les incitations, la recherche, le renforcement des capacités et le mécanisme de financement soutiendront l'investissement pour garantir non seulement que la mer devient saine et durable, mais également en face avec un développement solide et durable de l'économie marine. Selon la ministre de l'Environnement et des Forêts, cela correspondait au dossier de son ministère selon lequel les écosystèmes côtiers et marins ont divers problèmes. La solution nécessite également des suivis liés à l'institution. C'est Juritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
La vice-ministre de Tourisme et de la Commerce Créatif, Angela Tanusudibio, a visité l'un des bâtiments de patrimoine culturel, Chong Afi Mansion, situé dans la ville de Medan, au nord de Sumatra, le 26 janvier. Elle a fait remarquer que Chong Afi Mansion est plein d'histoire de lutte dans la lutte pour l'économie du peuple de Medan. Les historiques présentées sont également très fortes pour que Chong Afi Mansion puisse devenir une attraction touristique. Ses auditeurs, dans le passé, Chong Afi Mansion était la résidence d'un leader communautaire nommé Chong Afi. Il a eu une influence majeure sur l'amélioration de l'économie et le progrès de la résidence de Medan. Chong Afi est connu pour avoir émigré à Medan à l'âge de 18 ans. Auparavant, il occupait des emplois non permanents pour gagner sa vie. Grâce à son travail acharné, son esprit combatif et sa gentillesse, la vie de Chong Afi est lentement améliorée jusqu'à ce qu'il puisse acheter une plantation. Il a également contribué à un tiers du coût de la construction de la grande mosquée à Medan, de la construction de temples, de ponts et bien d'autres. La ville de Medan a grandi avec les progrès de Chong Afi. Le bâtiment Chong Afi Mansion présente des styles architecturaux chinois, malais, européens et art déco. L'agencement de cette maison à deux étages suit les principes du feng shui. Il peut être vu depuis les pièces qui se trouvent sur les quatre côtés du bâtiment et entourent une grande cour ouverte au milieu, qui signifie « puits du ciel ». Chong Afi Mansion est également souvent considéré comme un joyau historique à Medan. Par conséquent, on espère que les valeurs contenues dans les bâtiments historiques ne s'étamperont pas, mais apporteront des avantages économiques à la communauté. Pour visiter Chong Afi, les touristes peuvent voir divers beaux détails architecturaux ainsi que diverses antiquités encore bien conservées. Les prix des billets pour Chong Afi Mansion sont assez abordables pour les touristes, soit 35 000 de rupiah par personne. Chong Afi Mansion est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Le Forum du tourisme de l'ASEAN 2023. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère du tourisme et de l'économie créative, à l'honneur d'être l'hôte du Forum du tourisme de l'ASEAN 2023, qui se tiendra dans la région spéciale de Yogyakarta du 2 au 5 février 2023. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que le Forum du tourisme de l'ASEAN 2023 était le plus grand événement touristique de la région de l'ASEAN qui se tient régulièrement chaque année. La présence de cette activité sera un espace de coopération entre les pays membres de l'ASEAN pour promouvoir la région de l'ASEAN en tant que destination touristique. Selon Sandiaga, Yogyakarta a été choisie comme lieu du Forum du tourisme de l'ASEAN 2023 parce que Yogyakarta est l'une des destinations super prioritaires avec l'infrastructure de la Réunion, incentive, convention et exposition la plus prête pour la tenue d'événements la réunion internationale au niveau ministériel. Le Forum du tourisme de l'ASEAN 2023 a tenu des ordres du jour. à commencer par la réunion des délégations des États au niveau ministériel de l'Organisation nationale du tourisme, ainsi que le Travel Exchange, qui est un forum d'affaires pour les entreprises touristiques entre les pays de l'ASEAN. Il y a aussi des activités supplémentaires telles que le petit déjeuner du ministre organisé par USABC, le déjeuner d'affaires du ministre organisé par CNN, Lao Night en tant que prochain événement de délégation de leadership au Lao, la tournée après la réunion pour la déléguée VIP, la cérémonie de remise des prix de l'ASEAN et la semaine de la mode modeste mondiale. Les participants à la réunion de la délégation au Forum du tourisme de l'ASEAN ont été suivis par les pays de l'ASEAN et aussi plusieurs pays partenaires tels que l'ASEAN Plus 3, c'est Japon, Corée et la Chine, lundi la Russie et plusieurs autres organisations internationales telles que l'OMT, la PATA, WTTC, ASIANTA et USABC. Le thème du Forum du tourisme de l'ASEAN 2023 cette année est ASEAN, un voyage vers de merveilleuses destinations. Ce thème représente le principal espoir du secteur touristique dans le développement des grandes destinations touristiques régionales et internationales, en plus de renforcer la position de l'ASEAN en tant qu'accélérateur de la croissance économique et de la création d'emplois. Chers amis, c'est à la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Betapa ku damba suatu tempat di mana dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada aku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Ooh. matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku damba suatu tempat di mana.
Di Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique Magazine Musical, je vais vous présenter une chanson du groupe Kahitna. Chers amis, Kahitna, un groupe de Bandung qui s'est formé le 24 juin 1986. La marque de fabrique de Kahitna est que ses arrangements musicaux sont un mélange d'éléments de jazz, pop, fusion, latine et ethnique. Actuellement, le groupe dirigé par Jovi Widianto est composé de trois chanteurs, à savoir Carlos Saba, Hed Yunus et Mario Ginanjar. Ils portent souvent le thème de l'amour avec des paroles romantiques. La chanson Chantique, Belle, ne fait pas exception. Encore une fois, cela est contenu dans l'album Chantique ou Belle, qui est sorti en 1996. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux d'une belle fille et veut l'approcher. Il a fait diverses façons de convaincre ses sentiments pour la fille. Bon, chers auditeurs, voici Kahitna va chanter une chanson intitulée Chantique. Bonne écoute!
Lepas keresahan dirimu, oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggu, tapi apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara. Tapi apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, untukmu selamanya. Tiada lagi.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.